La dernière fois, nous avons vu dans l'histoire de Job le développement du mal dans le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous l'origine du mal. Comment est-ce que ce problème du mal a commencé? Les Écritures nous donnent peu d'indications sur l'origine du mal. Elles nous donnent davantage d'indications sur la manière dont Dieu veut résoudre ce problème pour l'humanité. Mais quelques textes, cependant, nous permettent d'avoir une idée de la manière dont le problème a commencé au départ. Tout d'abord, un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, où Jésus parle de l'origine du mal. Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 43. Il est dit ceci. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, Jésus parle clairement ici du diable et il donne du diable deux caractéristiques principales. Il dit qu'il est meurtrier dès le commencement et il est le père du mensonge. Ce sont là deux éléments importants qui font du diable l'ennemi de l'humanité, menteur et meurtrier. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 8, il est écrit ceci. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Le diable est donc celui qui est à l'origine du problème du mal. La Bible nous parle peu de ce problème à l'origine. Nous avons peu d'indications sur le début, mais dans le livre de l'Apocalypse, une indication nous est donnée qui nous permet d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Nous ne pouvons pas avoir une idée précise de ce qui s'est passé dans le ciel. La Bible nous parle d'une guerre et bien évidemment la guerre dans le ciel ne ressemble pas aux guerres qu'il y a sur la terre. Mais quand on parle de guerre, on comprend qu'il y a un conflit majeur, un conflit mortel. Et le texte nous fait comprendre que Satan a perdu cette bataille, qu'il a été jeté hors du ciel. On a ici d'ailleurs les noms qui sont utilisés dans les Écritures pour désigner Satan, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. On apprend aussi qu'il s'était attaqué à Michaël et ses anges. Michaël, Michel, un mot qu'on a en français et qui vient d'un nom hébreu et qui signifie celui qui est identique à Dieu, celui qui est semblable à Dieu. Seule une personne peut porter ce nom-là en réalité dans le ciel. C'est celui qu'on appellera plus tard Jésus, parce qu'il est de nature divine. Il y a donc une guerre, et Satan va perdre cette guerre. Cette guerre est en fait à l'origine de tout le problème dans lequel nous sommes impliqués et que nous avons vu s'étendre dans la vie de Job la dernière fois. Maintenant, pourquoi cette guerre a-t-elle commencé dans le ciel? Quelques textes des Écritures nous donnent des indications sur les ambitions de Satan au départ. J'aimerais regarder avec vous un texte dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 28. Dans Ézéchiel chapitre 28 se trouve un message que le prophète Ézéchiel a reçu pour le roi de Tyr, ce qui nous montre que les prophètes de Dieu n'avaient pas simplement des messages pour le peuple d'Israël seulement, mais aussi pour d'autres peuples environnants. Et dès le départ, on se rend compte dans ce texte que ce qu'il est dit du roi de Tyr ne peut pas concerner seulement le roi de Tyr. Ça va beaucoup plus loin. On voit derrière le roi de Tyr celui qui l'inspire, celui qui est derrière lui, celui qui est son maître. Regardez par exemple dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 2. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, tu as dit « Je suis Dieu ». Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 12, il est dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. » Et un peu plus loin, verset 18, vers la fin, « Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. » Voilà un passage qui s'adresse tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, au roi de Tyr, mais on se rend bien compte que il y a plus que le roi de Tyr derrière cette description. Au départ, il est dit qu'il se prend pour Dieu. Il dit « Je suis Dieu ». Et Dieu lui répond « Mais non, tu es un homme. Mais tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Et un peu plus loin, on apprend qu'il s'agit là d'un ange qui était dans le ciel, qui était aussi en Éden, et qui était parfait en beauté. « Tu mettais le sceau à la perfection », dit le texte. On a l'impression, en lisant le texte, que cet ange avait une place particulière dans le ciel, une place d'autorité. Il était probablement, comme dit le texte ici, un chérubin protecteur, c'est-à-dire très près de Dieu, un être que Dieu avait créé et qui était parmi ses serviteurs les plus élevés dans la hiérarchie céleste, si on peut parler ainsi. Et on apprend qu'à un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu. À deux reprises, dans ce passage, il nous est dit que ce chérubin protecteur est une créature. À deux reprises, Dieu lui rappelle qu'il n'est pas de nature divine, mais qu'il est une créature. Et par conséquent, il ne peut pas ambitionner d'avoir la nature divine. Il s'est corrompu, il a péché, et Dieu le rejette hors du ciel. Et finalement, on apprend qu'il sera réduit à rien, et qui ne sera plus à jamais. Autrement dit, un jour, l'ennemi de l'humanité sera détruit d'une façon définitive. L'origine donc du mal se situe non pas sur la terre, mais dans le ciel. Et vous remarquez ici une chose qui me paraît importante, c'est que le mal n'est pas une énergie, de la même manière que Dieu n'est pas une puissance seulement pour le bien. Le mal a trouvé son origine chez une créature. Dieu est une personne. Le problème du mal n'est pas le conflit entre l'énergie du bien et l'énergie du mal. Le problème du péché a trouvé sa naissance dans le cœur d'un personnage créé par Dieu, qui a fait des choix, qui s'est opposé à Dieu et qui a voulu prendre la place de Dieu. Le mal n'est donc pas une puissance. Dieu n'est pas simplement une énergie, et par conséquent, il faut s'attendre à ce que le problème du mal ne soit pas résolu non plus par une énergie, mais résolu par une personne. Un autre passage parallèle à celui-ci dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14 nous donne des indications supplémentaires. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Le contexte de ce chapitre est particulièrement intéressant. Au chapitre 13, juste avant, il y a une prophétie qui est prononcée là contre Babylone. Dans cette prophétie, Dieu annonce que Babylone va être détruite, détruite entièrement et pour toujours. Et curieusement, Babylone va devenir, dans toutes les Écritures, le symbole, l'image du mal et de ceux qui sont opposés à Dieu. Il y a donc la promesse dans ce chapitre 13 d'une destruction permanente du mal et de ceux qui font le mal. Et au chapitre 14 qui suit, on a une indication de l'origine. Il s'agit encore d'un texte qui est destiné au roi de Babylone. Et derrière ce roi de Babylone se trouve encore une fois quelqu'un qui est plus grand que lui et que l'on reconnaît être comme étant Satan, le serpent ancien dont il était question dans l'Apocalypse. À partir du verset 12, par exemple, il est dit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » On retrouve ici les mêmes indications que l'on avait dans le livre du prophète Ézéchiel. On apprend qu'il s'agit d'un astre brillant, de quelqu'un qui était dans le ciel et qui disait en son cœur, « Je prendrai la place de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Et le texte nous rapporte au verset 14, il dit « Je serai semblable au Très-Haut. » On apprend que l'ennemi, Satan, veut prendre la place de Dieu. Il veut être semblable au Très-Haut. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu ce texte dans le livre de l'Apocalypse qui parlait de Michel, de Michaël, qui est un des noms de Jésus et qui veut dire semblable, identique au Très-Haut. On comprend en mettant les morceaux ensemble que l'ennemi a voulu prendre la place de celui qui est semblable au Très-Haut. Il a voulu prendre la place de Jésus lui-même. Mais évidemment, Satan est une créature, Jésus, lui, est de nature divine, et on comprend là l'impossibilité pour Satan de prendre la place de Dieu. On se rend compte que Satan souhaite avoir la puissance de Dieu, la force de Dieu, mais il ne souhaite pas avoir son caractère. Or, le caractère de Dieu est défini dans les Écritures, pour prendre un résumé, comme un caractère d'amour et de justice. Et ce n'est justement pas les caractéristiques de Satan. Jésus l'avait défini, on l'avait vu dans le texte tout à l'heure, comme étant le meurtrier dès le commencement et le père du mensonge. Satan veut donc avoir la puissance de Dieu, la force de Dieu, mais il ne veut pas avoir son caractère. Satan est aussi appelé Lucifer. Cette expression vient de ce passage d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12, où il est parlé de cet astre brillant. Lucifer veut dire porteur de lumière. C'est un très beau nom, et c'est effectivement ce que Satan était au départ. Mais Satan, par son péché, s'est mis en concurrence avec Dieu, en conflit avec Dieu. Il veut prendre la place de Dieu, il s'est séparé de Dieu, et séparé de Dieu, il est par conséquent condamné à mourir. Il n'est plus rattaché à la source de vie, la seule source de vie qu'il y a dans l'univers et qui est Dieu lui-même. Dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, dans Ézéchiel, il nous était dit que Satan était en Éden, le jardin de Dieu. On a appris aussi dans l'Apocalypse qu'il avait été précipité sur la terre. Alors on va aller regarder dans le livre de la Genèse, où il est question du jardin d'Éden, ce qu'il en est de Satan et ce qu'il fait là. On a là une indication de ce qui se passe qui est très réduite. On a fait de ce texte une légende parce que très peu d'indications nous sont données qui répondent à notre curiosité. Mais on a ici un enseignement clair sur ce qui se passe au début. Adam et Ève ont été créés parfaits. On apprend dans le chapitre 1 qu'ils ont été faits l'un et l'autre à l'image de Dieu. C'est dire qu'ils ont été créés parfaits, sans péché. Maintenant, on arrive au chapitre 3 et on a le serpent. Le serpent qui va poser une question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit ? On va commencer à semer le doute. Est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ce que Dieu t'a dit ? On commence avec ça. Et la femme lui dit, nous mangeons des arbres de tous les fruits du jardin, mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Il y a donc là une restriction et qui est grave parce que le jour où on en mange, on meurt. Finalement, le diable dit, mais non, verset 4, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Là, tout d'un coup, vous entendez de nouveau la même chose que ce qu'on a lu dans les textes précédents. Il voulait être comme Dieu, et il va essayer d'embarquer ceux qui sont sur la terre dans la même révolte que lui, dans la même ambition que lui. Il invite les êtres humains à vouloir eux aussi être comme Dieu, alors qu'eux aussi sont créatures comme lui. Il va donner ici trois mensonges. Et mes amis, ces trois mensonges persistent encore aujourd'hui, très fortement. Numéro 1, vous ne mourrez point. Regardez tout ce que l'humanité fait pour nier la mort. Depuis l'embaumement jusqu'à la théorie de la réincarnation, en passant par l'âme immortelle qui monte au ciel. Regardez tout ce que l'humanité fait pour nier la mort, sous une forme ou sous une autre. C'est le même mensonge qui est là. Vous ne mourrez point. Deuxième mensonge, vos yeux s'ouvriront. Autrement dit, le diable leur dit, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas, vous allez connaître des choses que vous ne connaissez pas. Vous allez être des ultra-lucides. Et on a aujourd'hui encore tous ces extra-lucides, dans tous les mouvements occultes, qui prétendent voir ce que le commun des mortels ne voit pas et savoir ce que le commun des mortels ne sait pas. Le diable essaie de faire croire à Adam et Ève que Dieu leur cache des choses tellement importantes qu'il faudrait que vous suiviez ce que je vous dis pour que vous puissiez voir ce que Dieu vous cache. Le diable est en train d'essayer de mettre une séparation, de briser la confiance qu'il y a entre le Créateur et sa créature, de susciter le doute. Et le troisième mensonge, c'est « vous serez comme Dieu ». Et remarquez bien, l'homme cherche tout le temps à prendre la place de Dieu, à être tout puissant, à avoir plus de force, plus de puissance, plus de domination. Ce que le diable est en train de faire, il essaye de passer entre Adam et Ève et Dieu, de détruire la confiance que l'humanité a dans le Créateur, et d'inviter les humains à lui faire confiance, à lui plutôt qu'à Dieu. Finalement, on va obéir à celui à qui on va faire confiance. Si le diable arrive à avoir la confiance de l'humain, des humains, de voler la confiance que les humains donnaient à Dieu, il sait qu'à partir de là, il va avoir aussi leur obéissance. Et c'est ce qui arrive. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il a partagé dans cette rébellion. Autrement dit, le diable veut emmener dans sa rébellion, lui, l'humanité, les autres créatures. Il a déjà embarqué une partie des anges. Maintenant, il veut embarquer les habitants de la terre avec lui dans cette tentative de prendre la place de Dieu. Alors, on va regarder quelques textes après, mais regardez bien ce que Dieu avait dit. Chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17.
L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Merci. Alors le texte en français est beaucoup plus faible qu'il n'est dans l'original. Il y a là une expression que ma version essaie de traduire en disant « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le texte dit littéralement « Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. » Ce qui est une répétition qui n'a pas de sens en français, mais qui a du sens en fait parce que c'est une manière pour Dieu de dire « Le jour où tu vas en manger, tu ne vas pas mourir du sommeil de la mort dont on parlera plus tard. » La mort que nous connaissons. Tu vas mourir de la mort qui est la destruction définitive, permanente, celle dont on a entendu parler par rapport à Satan, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu lui disait « tu ne seras plus à jamais ». C'est de cette mort-là qu'il est question. Le jour où tu en manges, c'est de cette mort-là que tu vas mourir. Alors, quel rapport y a-t-il entre une destruction totale et définitive et le fait d'aller croquer une pomme? Le problème n'est pas d'avoir été croquer la pomme. Le problème, c'est qu'ils ont été d'une étape à l'autre, ils ont abandonné leur confiance en Dieu pour faire confiance à l'ennemi. Et ayant fait confiance à l'ennemi, ils étaient prêts à lui obéir. Et les conséquences sont là. Maintenant, gardez un doigt dans Genèse et regardez Épître aux Romains, chapitre 6. Romains 6, verset 16.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?
Merci. Si vous obéissez à Dieu, vous allez être serviteur de Dieu. Si vous obéissez au diable, c'est lui votre maître maintenant. Le problème n'est pas que Adam et Ève ont mangé la pomme. Le problème, c'est qu'ils ont choisi de désobéir à Dieu et d'obéir à l'ennemi. Et en obéissant à l'ennemi, ils ont rompu une relation de confiance avec Dieu et ils ont établi une nouvelle relation avec l'ennemi. Autrement dit, ils ont refusé que Dieu soit leur maître et ils ont choisi l'ennemi, Satan, comme leur nouveau maître. Dans le texte qu'on a là, on apprend qu'il y a quelque chose qui a été brisé entre Dieu et l'être humain. Maintenant, il faut qu'il soit réparé. Tout le plan que Dieu met en place pour remédier à ce problème-là va être de reconstruire la relation qui est brisée. Dans le jardin d'Éden, une relation est cassée. Il y a quelque chose qui a été brisé. Et on ne peut pas dire « Ah ben c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. » Non, c'est cassé. Donc maintenant, il faut reconstruire. Et c'est toujours beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux de reconstruire que de briser. La relation entre Adam et Ève et Dieu après cet événement n'est plus la même. Dieu avait un contact sans barrière avec Adam et Ève. Et ils ont eu avec lui l'occasion de s'instruire de toute la situation du monde, de l'univers. Regardez cette image, une très belle image. Elle est issue du texte, elle n'est pas dans le texte. Mais lorsque Dieu crée Adam et Ève, et c'est rapporté en particulier par rapport à Adam, il va créer son corps à partir de la poussière de la terre. Et vous voyez Dieu qui prend la terre, qui se met les mains dans la terre et qui construit le corps de l'être humain à partir de la terre. Et vous avez là une chose. Et puis Dieu lui prend la tête et lui souffle le souffle de vie. Adam va ouvrir les yeux. Quelle est la première image qu'il va voir par ses yeux ? C'est le visage de Dieu lui-même. Vous voyez un petit peu l'intimité, vous voyez un petit peu la relation qui est créée là. Mais voyez, Adam et Ève vont être créés par Dieu, et Dieu c'est proche. C'est pas un Dieu qui de loin, avec une baguette magique, qu'il y a un homme là-bas. C'est tout près du visage de Dieu, tout proche. Il y a un lien extrêmement fort entre la créature et le créateur. Et là, on peut imaginer ce lien en pensant au lien entre la mère et l'enfant, justement, à la naissance. Et ce lien-là, Adam et Ève le cassent en disant « Oh, oh, non, 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 non. Moi, je veux aussi être comme Dieu. Moi aussi, je prends la rébellion de Satan. Et je doute de ce que Dieu fait et de ce que Dieu dit. » Donc au-delà de la pomme croquée, il y a véritablement toute une relation particulière qui est brisée et qu'il va falloir reconstruire. Si elle n'est pas reconstruite, c'est la mort. Mais pas la mort, sommeil. La mort, retour dans la non-existence définitive.
Le lien entre la créature et le créateur a été brisé totalement, mais entre les humains, mais aussi entre toute la créature, genre nature, tout ça, parce qu'après ça, il y a les épines, mais les formes nouvelles, tout ça. Mais
au ciel, ce lien-là a-tu été brisé? Tu sais, disons, tout a été brisé, là. Genre, les anges puis Dieu, il n'y a pas eu de brisure-là.
Dieu a créé le monde en 6 jours, littéraux de 24 heures, nous dit Genèse 1. Mais cette création-là n'était pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu était d'y mettre l'être humain. Et Adam et Ève avaient reçu la domination de ce monde-là. Ils étaient devenus les gestionnaires de la terre. Ils devaient le cultiver, le garder. C'était leur responsabilité. L'homme, qui était l'objectif même de la création, voit tout son univers porter les conséquences de son choix à lui. Il y a une différence entre la cassure d'Adam et Ève avec Dieu et la cassure entre Satan et Dieu. Satan était à côté de Dieu, avec Dieu, dans le ciel, dans un univers qu'Adam n'a pas connu. Et Adam est tombé parce qu'il a eu affaire à Satan, qu'il a embobiné dans son histoire, et qui a dressé devant lui une fausse image du caractère de Dieu. Un caractère dans lequel, disait-il, tu ne peux pas avoir confiance. Dieu est un tyran, il te donne une loi. Ce n'est pas une loi que tu peux suivre. Non, non, non. Viens, moi, je vais te montrer comment ça marche. J'aimerais regarder avec vous les conséquences. Elles ne se font pas attendre dans l'histoire qui suit au chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va lire les versets 7 et 8.
Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Merci. La confiance est cassée parce qu'alors que Dieu vient pour ce rendez-vous quotidien, qu'est-ce qu'ils font?
Ils se cachent.
Ils vont se cacher. On se cache de quelqu'un dont on a peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'ils aient peur de celui qui les a faits, qui a soufflé dans leurs narines et dont ils ont vu le visage en premier lieu? C'est la fameuse cassure. L'histoire de la chute n'est pas une légende. Elle est chargée d'un drame extraordinaire, de la cassure entre celui qui crée et celui qui reçoit la vie par le Dieu d'amour. Il va se cacher. Toujours Genèse, chapitre 3, versets 9 à 13.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. »
Merci. On a là un drame incroyable. La première conséquence, c'est que l'homme a peur. Et ça, c'est encore aujourd'hui. L'être humain a peur de Dieu. Et toutes les religions, malheureusement même la religion chrétienne, a développé cette idée qu'il faut faire quelque chose pour apaiser Dieu et que Dieu ne soit pas fâché avec nous, et que Dieu ne soit pas contre nous, et garder Dieu tranquille. C'est ce qui a donné ce grand salut par les œuvres que l'on retrouve partout dans toutes les religions, païennes ou même chrétiennes. Il faut que l'homme fasse absolument quelque chose pour que Dieu soit tranquille et ne lui fasse pas du mal. Pourquoi? Parce que l'homme a peur de Dieu. La conséquence arrive là immédiatement. Ensuite de ça, il y a une autre conséquence. Vous avez remarqué, on retrouve ici le texte qu'on avait déjà lu au début, c'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme se cache, il s'enfuit, mais Dieu cherche, où es-tu? Il va retrouver Adam et Ève, et il va les retrouver déguisés avec des feuilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus. Ils étaient couverts de lumière. Maintenant, il n'y a plus cette lumière divine qui les couvre. Et ils découvrent leur nudité, image de la culpabilité qui va avec. Et qui est encore un problème énorme aujourd'hui. Toute cette culpabilité que l'on porte, que l'on transporte et que l'on développe parfois même, et dont on a besoin d'être libéré. Et la troisième conséquence qui arrive ici, c'est que Dieu s'adresse à Adam et lui dit, mais est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai dit qu'il ne fallait pas toucher? Ah non, 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 moi j'ai rien fait. C'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, ah non, 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 moi j'ai rien fait. C'est le serpent que tu as créé qui m'a posé des problèmes. Alors, il y a quelque chose ici qui est tombé en ruine entre Adam et Ève. L'amour a été détruit. Dans les quelques instants qui suivent, l'homme a peur de Dieu, il est envahi par sa culpabilité et l'amour est détruit. Si vous tournez une page et que vous arrivez au chapitre 4, vous découvrez que la mort est là. C'est Caïn qui va tuer son frère Abel. Les conséquences arrivent immédiatement. Voyez, dans ce texte, il y a, au-delà de la description simple qui est faite, un enseignement profond sur ce que le péché a fait dans la relation entre l'homme et Dieu. Maintenant, chapitre 3, versets 14 et 15.
L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Merci. Dès que Dieu a cet entretien avec Adam et Ève et constate les dégâts avec eux, il va prendre des dispositions par rapport à Satan. Il va lui dire, voilà, tu es maudit. Et il va dire au verset 15, « Je mettrai inimitié, guerre, conflit entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Le texte dit littéralement, « Il t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » C'est là un texte prophétique qui est le premier texte dans les Écritures qui nous parle de la manière dont Dieu va apporter la solution au problème du péché. Il y a une faute de grammaire dans ce texte parce que postérité est féminin, aussi dans l'original, et il nous est dit « il ». Il t'écrasera la tête. Le texte dit « entre ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce qui rend ce texte suspect. Le « il » s'adresse à qui ? Le « il » fait référence à qui ? Qui va écraser la tête du dragon ? On parle de Jésus. Tu lui blesseras le talon. C'est ce qui est arrivé au calvaire. Mais au calvaire, Jésus a écrasé la tête de l'ennemi. Il a fait au calvaire la démonstration qu'il est le menteur et qu'il est le meurtrier dès le commencement. Jésus n'avait pas à mourir, il était sans péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais voilà quand Jésus, il va porter la conséquence du péché de quelqu'un d'autre alors que lui n'a pas péché. Là se trouve tout le cœur du plan du salut et du plan de sauvetage. Alors regardez bien quelque chose maintenant. Au verset 7, il était dit qu'ils ont cousu des feuilles de figuier et qu'ils s'en sont fait des ceintures. Si vous vous faites des vêtements avec des feuilles, ça va tenir le coup combien de temps, ça ? Maintenant, tournez une page et regardez dans chapitre 3, verset 21. Genèse 3, 21.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller.
Merci. Ici, dès les premiers versets des Écritures, on a un grand thème qui commence et qui va parcourir les Écritures, c'est le vêtement. Ils se sont habillés avec des vêtements de feuilles. Ça ne tient pas le coup, cette affaire-là. La solution que l'être humain, dès le départ, apporte à son problème ne tient pas longtemps. Ce n'est pas une solution. La solution est apportée par Dieu qui va leur donner des habits de peau. C'est Dieu qui leur a donné des vêtements de peau. Pour pouvoir leur donner des vêtements de peau d'animaux, Dieu a dû faire un sacrifice. Le sacrifice. Et en faisant ce premier sacrifice, Dieu va leur donner la solution durable à leur problème. Et vous avez là toute l'image du plan de sauvetage de Dieu. Dieu nous fait comprendre que les moyens que nous utilisons pour résoudre notre problème, qui est le problème du péché, ce ne sont jamais des solutions durables, ce sont toujours des solutions superficielles et qui ne durent jamais et qui n'apportent pas la solution au vrai problème. Dieu essaie de nous faire comprendre la gravité de la situation du péché. Tout le système des sacrifices qu'on a dans l'Ancien Testament est destiné à ça. Il n'y a aucun des sacrifices dans l'Ancien Testament qui n'était capable de pardonner le péché d'aucun être humain. Mais ils étaient simplement capables d'éveiller en eux la compréhension qu'un sacrifice extrême devait être fait pour qu'eux puissent être pardonnés un jour. Ça coûterait la mort de quelqu'un. On est aujourd'hui sous le même régime. La pédagogie est différente, mais c'est ça quand même. Dieu va faire le sacrifice, et en faisant le sacrifice, Dieu va pouvoir me couvrir. Et on retrouve là le thème de Dieu qui me couvre, qui me donne un manteau. Regardez dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, verset 10.
Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonde d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux.
Merci. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dans certaines versions, c'est le manteau de la justice. Par définition, je ne suis pas juste. Par définition, je suis perdu. Mais Dieu veut me couvrir d'un manteau de justice et de délivrance de la même manière qu'il a couvert Adam et Ève avec les vêtements de peau qu'il a fait. Au prix du sacrifice. Et vous voyez derrière ce premier sacrifice, l'image du sacrifice de Jésus, une image du salut que le Seigneur nous donne grâce au sacrifice qui a été fait. Dès le départ, les images qui sont dans le livre de la Genèse vont traverser toutes les Écritures avec une signification très forte, parce que tout au long du chemin, elles vont s'enrichir d'éléments qui ont trait à la personne de Jésus, pour créer tout un système pédagogique pour nous faire comprendre pourquoi Jésus est mort et ce qu'il a fait pour nous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, la conséquence nous est rappelée. Romains 6, l'apôtre Paul ne se limite pas à donner les conséquences, il donne aussi en résumé le remède. Romains 6, 22, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort de mort dont il était question dans Genèse chapitre 2, tu mourras de mort, mutamut, tu mourras de mort, c'est-à-dire d'une destruction totale. C'est ça le salaire du péché. Mais il y a une issue de secours. On ne sait pas encore comment elle va être articulée, cette issue de secours, mais elle passe par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le texte qu'on avait dans Genèse, vous vous souvenez, Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et remarquez bien qu'ils en ont mangé et ils ne sont pas morts. Et je peux facilement imaginer le diable qui leur dit « Regardez, je vous avais bien dit qu'il est menteur, votre Dieu. » Vous prenez l'image d'un ventilateur. Il est branché, il tourne. Si vous débranchez, comment est-ce qu'il s'arrête? Il va tourner jusqu'à ce qu'il va s'arrêter tout seul. En fait, il est arrêté à partir du moment où vous avez débranché, c'est-à-dire où vous l'avez séparé de la source d'énergie. Il ne fait que continuer à tourner sur l'élan qu'il avait avant. Mais il n'a plus aucune puissance pour tourner. Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont débranché avec Dieu et ils ont rebranché chez le diable. Or, le diable ne peut leur donner aucune puissance, aucune vie. Ils ont continué à tourner, si je peux prendre cette expression-là, sur la puissance que Dieu leur avait donnée, mais ils n'avaient plus aucune vie qui pouvait les faire vivre éternellement. Ils avaient débranché leur contact avec Dieu, qui est la seule source de vie, et ils ont cru qu'il y avait quelque chose à recevoir de l'ennemi. Et ils ont branché chez lui. Et chez lui, il n'y a rien. Et nous sommes tous dans cette situation-là. Alors maintenant, regardez juste un ou deux textes avant qu'on termine. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26.
Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »
Merci. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Adam a été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Maintenant, tournez une page ou deux et regardez dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, versets 1 et 2.
Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth.
Merci. Vous avez remarqué, au début, Dieu va créer l'homme, Adam, à sa ressemblance. Mais maintenant qu'Adam a péché, une fois qu'il a péché, Adam va procréer à sa ressemblance à lui. C'est-à-dire que tous ceux qui descendent d'Adam sont des hommes, des femmes, qui sont séparés de Dieu de la même manière que lui l'a été par la désobéissance. Voilà pourquoi nous sommes impliqués dans le problème du péché. Voilà pourquoi la souffrance nous frappe. Voilà pourquoi l'histoire de Job. Parce que l'humanité, finalement, a ouvert la voie à la même révolte que celle qui était celle de Satan dans le ciel. Je veux être à la place de Dieu. Même si je suis une créature, je veux être Dieu. Il est donc séparé de Dieu. Il va bénéficier de toutes les catastrophes que le diable est capable de lui infliger, de tous les maux qu'il est capable de lui donner, mais il a débranché d'avec Dieu. Si au départ, la catastrophe a été enclenchée par une rupture, le remède va être de reconstruire la relation. Le plan du salut, dans sa totalité, consiste à reconstruire la relation entre l'homme et Dieu. Tout le plan du salut gravite autour de ça. Maintenant, un dernier passage dans Apocalypse. Apocalypse 21, à partir du verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » On a vu au début la catastrophe qui a frappé l'humanité. Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son choix. Dieu a mis sur pied un plan de sauvetage. Et voilà la conclusion de ce plan de sauvetage. Dieu fait toute chose nouvelle. Dieu va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni douleur ni rien des conséquences du mal. Ce que le plan de Dieu nous propose, c'est d'embarquer avec lui dans ce plan de sauvetage. Et lui s'occupe du reste. Tout le livre qu'on a entre les mains, les Écritures, entre Genèse et l'Apocalypse, nous parle de ça. Où Dieu est en train de dire, cette relation cassée, est-ce que tu veux la reconstruire? Si tu veux la reconstruire, alors à ce moment-là, je pourrais reconstruire avec toi ce qui était prévu à l'origine. Mais encore une fois, comme pour Adam et Ève, j'ai un choix à faire. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous fait connaître le grand plan du salut, qui nous fait connaître l'origine de la difficulté que nous rencontrons chaque jour en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Mais dans ta parole, Seigneur, tu nous donnes espoir, espérance. Tu nous rappelles que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu es un Dieu d'amour et que tu es prêt à tout pour donner à chacun d'entre nous la possibilité de retrouver la vie éternelle. Seigneur, apprends-nous en étudiant ta parole à être de plus en plus émerveillés par la grandeur de ton amour pour nous et à accepter que Jésus soit notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.